Michel Renoir, Le Chant des Adieux, première partie, chapitre 1. Le professeur Jean-Louis Vaillot, chef du service d'hématologie à l'hôpital Léon Rostand, se sentit comme soulagé d'un grand poids quand son assistant lui apporta le résultat de la biopsie. Yves de Lambert avait la mine réjouie qu'il arborait toujours pour annoncer les grandes catastrophes. Il tendit la feuille blanche à en-tête de l'hôpital, mais Bayot savait déjà ce qu'il y trouverait. Soigneusement dactylographiée par Chantal Rieck, la laborantine, la présence des cellules de Sternberg y apparaissait en caractère rouge. Le mot « cancer » ne lui faisait pas peur. Le mal dont il souffrait avait été le compagnon de toute sa vie. Il l'avait traqué tant de fois qu'il en devinait la présence à la moindre trace. Et n'était-ce pas dans la nature des choses que ce vieil ennemi eut enfin le dernier mot? Encore un an? Il offrit une cigarette à son confrère et s'aperçut que sa main tremblait plus que la sienne. La réponse, il la connaissait mieux que quiconque, mais la posée remplissait un silence. Il ne voulait pas songer immédiatement à l'aspect personnel du drame. Tout au plus, avec un peu de chance, De Gaulle mourra avant toi. Surtout que le succès de Pompidou aux élections d'hier a dû lui foutre un sacré coup. Bayot se leva de son bureau et se dirigea vers la large fenêtre qui donnait sur le boulevard du Montparnasse. Il lui sembla qu'en ce doux après-midi du 16 juin 1969, la circulation s'écoulait plus lentement que d'habitude. Yves de Lambert vint rejoindre son ami et lui posa la main sur l'épaule. « Mon pauvre Jean-Louis, il n'y a pas de quoi se jeter dans la Seine. Elle est assez polluée comme ça. » Bayot le connaissait depuis si longtemps qu'il discerna dans ses plaisanteries toute la douleur de son confrère et la profondeur de l'amitié qui les unissait. « Bah, la fin ne sera pas douloureuse. Et puisqu'il ne me reste que quelques mois à vivre, je suis bien décidé à vivre enfin. » Sans tarder, Bayot demanderait sa mise en disponibilité. C'était bien la moindre des choses. Avoir tout son temps pour observer seul, mais lucidement, l'évolution du mal, pour arpenter les avenues de la vie et tenter enfin de lui donner un sens à la dernière minute. Cette minute qu'il lui serait même facile de choisir si l'attente se faisait trop pesante, ou si, tout étant dit, il ne jugeait pas utile de guetter nerveusement l'aube blême du dernier matin comme un condamné à mort. « Et Corinne, tu lui envoies un faire-part ?» demanda Lambert. Bayot se tourna vers son ami et remarqua que ses yeux étaient embués de larmes. « Je ne lui dirai rien, bien entendu. La chose dont j'ai le moins besoin actuellement, c'est la pitié. La pitié rabaisse. Corinne apprendra plus tard. Mais il y a Philippe. » À ce nom, le visage du docteur Bayot, dont l'extrême jeunesse était mise en relief par l'éclairage de cette fin d'après-midi, il ne vieillit pas, disait-on de lui, à 45 ans on dirait encore un interne, se tendit imperceptiblement. Oui, je le dirai peut-être à Philippe, mais pas tout de suite. Ce serait inutile, et ça gâcherait les vacances qu'il doit passer avec Muriel. « Que comptes-tu faire après tes vacances? Suivre un cours accéléré d'espéranto ?» Bayot haussa les épaules. « La seule chose que je n'ai jamais su faire, vivre. Regarder les visages. Parcourir le monde. Aimer quelques femmes, peut-être, le temps d'un rêve. Arranger mes affaires. J'ai toujours détesté le désordre, et rien ne m'exaspère plus que ces gens qui meurent sans avoir fait la vaisselle. Revoir une ou deux personnes, refaire un pèlerinage ici ou là, rien de très spectaculaire. Si j'ai le courage, prendre quelques notes sur mon cas. Elles serviront au premier imbécile venu qui voudra écrire sa thèse sur la lymphogranulomatose maligne. Et pour commencer, mon vieux, t'inviter ce soir au restaurant chinois. Au restaurant chinois? Oui. Tu avoueras que ce n'est pas tous les jours qu'un mandarin reçoit son faire-part de décès. 2 heures plus tard, Jean-Louis Bayot et Yves de Lambert se retrouvait au Dragon Bleu devant un plantureux repas. C'est Bayot qui avait tout commandé, car Lambert se prétendait xénophobe et avait refusé de choisir entre divers plats dont le nom lui était étranger. « J'ai toujours aimé les restaurants chinois, » murmura Bayot, « pour l'ambiance plus que pour la nourriture. Ça m'a toujours semblé être une oasis. Avec Corinne, j'y suis allé des dizaines de fois quand elle revenait de reportage. J'allais la chercher à Orly, et on se dirigeait ensuite vers un restaurant chinois. C'était un rite. Nous n'en avions pas beaucoup, mais il y avait celui-là. » Lambert s'escrimait à grand-peine avec ses baguettes. Il resta quelque temps silencieux avant de poser à Bayot la question qu'il n'aurait jamais osé aborder avant ce jour, où les rares frontières qui les séparaient encore étaient définitivement abolies. « Je me suis toujours demandé pourquoi il vous avait fallu attendre 22 ans pour divorcer. Tu me diras qu'apparemment vous vous entendiez bien, et que le pape vous aurait donné le bon Dieu sans confession ou dédicacé ses encycliques. Mais vous n'aviez en fait rien en commun. Corinne haïssait tout ce que tu aimais, à commencer par moi. » Bayot eut un sourire et alluma une cigarette avant de répondre. « Tu as raison, et je sais combien tu en as souffert en silence. » Oui, nous n'aurions pas dû attendre si longtemps. J'aurais été plus heureux sans elle, et elle sans moi, puisque notre mariage reposait sur un malentendu. Pourtant, je ne me souviens pas que nous ayons jamais eu une vraie scène de ménage. Nos rapports sont restés courtois jusqu'à la fin. C'est pourquoi notre divorce a été une réussite en un sens, alors que notre mariage avait été un échec sur toute la ligne. Et pourtant, crois-moi, les juges ont tout fait pour nous rendre ennemis. Corinne a même refusé le moindre apport financier, sûrement parce qu'elle savait que moi, je ne le lui aurais pas refusé. Quand même, pourquoi attendre aussi longtemps ? Insista Lambert, qui, resté célibataire, avait du mal à comprendre ses complexités psychologiques. Oh, j'étais trop faible. Et puis nous étions habitués à mener nos deux existences parallèles, sans jamais nous rencontrer. Mon travail à l'hôpital prenait l'essentiel de mon temps. Ses reportages accaparaient toute son énergie. Elle me parlait de Hong Kong ou du Caire, du problème noir aux États-Unis ou des guérilleros d'Amérique du Sud. De son côté, elle admirait ce qu'elle appelait mon « brillant », et ça la flattait que son mari ait été un des plus jeunes professeurs agrégés de France. Souviens-toi, mon vieux, j'avais à peine 33 ans. Je l'écoutais avec intérêt, et elle aimait parler avec moi. Quand on se voyait, évidemment, c'est-à-dire entre deux avions. N'est-elle pas là la vraie raison ? Pas vraiment. Quand j'étais chef de clinique à Poitiers, et qu'elle travaillait dans un journal local, on se voyait tous les jours, et c'était déjà la même chose. Tout ça doit te paraître incroyable. Rien ne nous opposait, mais rien ne nous unissait non plus. Elle n'a jamais eu, que je sache, d'amant attitré. Oh, sans doute a-t-elle eu, ici et là, au cours de ses voyages, quelques aventures dont elle avait la courtoisie de ne pas me parler. Mais je n'ai jamais été assez naïf pour croire au mythe de la fidélité conjugale. En ce qui me concerne, ma vie sexuelle aurait donné un complexe de supériorité au plus intégriste des ecclésiastiques. Tu vois, Yves, nous vivions sur deux planètes différentes, sans heurts, sans problème majeur. Nous avions décidé que Philippe serait notre seul enfant. Oui, ce fils est sans doute ce que nous avons fait de mieux dans nos 22 ans de vie commune. Encore qu'il me semble parfois plus déphasé que moi dans cette époque de déphasement généralisé. » Yves de Lambert hochait la tête sans comprendre. « Et lorsqu'un jour, poursuivit Bayot, Corinne m'a déclaré le plus tranquillement du monde, « Au fond, nous n'avons plus rien à nous dire. Maintenant que Philippe est majeur, nous ferions mieux de nous séparer. » Je n'ai rien eu à lui opposer. Je n'ai ressenti aucune émotion, sinon l'amertume d'avoir échoué, une fois de plus, là où j'aurais tant voulu réussir. Pourquoi dis-tu « une fois de plus » ? Parce que je considère avoir échoué sur tous les fronts. Dans l'éducation de mon fils, mal armé pour un combat inégal. Dans la vie professionnelle, tout autant. Car que sont devenus mes rêves d'adolescent, quand la médecine m'apparaissait comme une sorte de sacerdoce ? En somme, il est temps que je meure, car plus aucune foi ne m'anime. Ni la foi religieuse, qui faisait la vie de ma mère, ni la foi en l'amour, ni la foi en la médecine, et moins encore la foi en l'homme. Comme la nature a horreur du vide, il est donc préférable que je disparaisse. Yves de Lambert aurait voulu plaisanter, mais la détresse de son vieil ami lui faisait mal. Tu as trop lu les stoïciens, et ton masochisme ne te fait voir que le mauvais côté des choses. Ne me dis pas que tu ne crois plus en l'homme, toi qui passes ta vie à lutter contre la mort. C'est bien ça le drame, figure-toi. Comme celui des prêtres d'aujourd'hui qui n'ont plus la foi. J'en suis arrivé à croire que cette lutte constante, quotidienne et démentielle contre la mort était insoutenable. On ne la vainc jamais. Elle gagne à tous les coups. On ne fait que détourner en corner. Aucune vie humaine n'est assez importante pour être sauvée. Tu me diras qu'il faut faire justement comme si la mort pouvait être vaincue, comme si toute vie humaine était précieuse. Tu me diras qu'il faut continuer à mentir aux malades en leur racontant qu'ils iront mieux dans un an, alors qu'on sait parfaitement qu'ils seront morts dans 6 mois, que leur enfant guérira alors qu'il sera paralysé toute sa vie. Une vaste rigolade, je te dis. J'en ai marre de traquer la maladie, de jouer à cache-cache avec la mort, de découvrir des cellules de Sternberg, de surveiller des numérations globulaires, de distribuer des antimitotiques et des feuilles de sécurité sociale, de taper cordialement sur l'épaule des patients, de fournir des études de cas à des revues spécialisées, d'assister au cocktail du doyen, de présider des thèses qui ne serviront jamais à rien, et de continuer, par mon argent, à subventionner les pantalonnades des arlequins de la politique. La seule chose qui vaille la peine, c'est de soulager la douleur, de rafistoler les bras cassés, de couper ici et là des choses sans importance, de guérir les angines. Mais retarder l'échéance, faire mener au malade une vie végétative ou sans intérêt, alors non, mon vieux, ça je ne le peux plus. Quand un homme ne sert plus à rien, il a le droit de disparaître. Yves de Lambert sentit que Bayot avait encore quelque chose à dire. Et tout ça pourquoi ? Pour le plaisir d'offrir à l'admiration béate de ses confrères des statistiques de guérison partielle qu'on aura trafiquées. Et pour l'argent, bien sûr. Quelle sinistre blague, tu ne crois pas ? Se payer des vacances au sport d'hiver ou des chasses aux tigres à coups de ponction lombaire, de radios souvent inutiles, d'analyses coûteuses, de bombardements au cobalt. À côté de ça, la vraie vie n'est jamais vécue. La vraie vie. Oui, la vie individuelle. Loin du troupeau. Je crois que certaines personnes la vivent. Oui, peut-être y a-t-il quelques hommes authentiques sur les millions de robots que nous côtoyons. Les gens qui respirent au lieu de s'abrutir de travail. Les gens qui goûtent aux rayons du soleil ou à la caresse de la pluie. Qui refusent de se laisser contaminer par le virus de l'engagement. Un mythe tout ça. On ne se coupe jamais de la société des vivants. Tu as peut-être raison, mais j'ai encore besoin de quelques mythes pour m'y accrocher. Contre tout espoir. Les deux médecins s'étaient quittés rue Mouffetard, où Yves de Lambert habitait. Bayot avait déclaré qu'il rentrerait à pied à son domicile désert, rue Comartin. Il déambula pendant près de 2 heures au hasard des rues, s'en voulant de ses confidences, et cependant heureux de les avoir faites, se rendant compte toutefois qu'il en avait rajouté, et qu'il avait tenté, par ses phrases, d'exorciser à son tour le fantôme de la mort qui désormais ne le quitterait plus. Même sur Corinne, il avait maintenant l'impression d'avoir menti, d'avoir caché l'essentiel, qu'il ne réussissait d'ailleurs pas à définir avec suffisamment de lucidité. Il se retrouva bientôt rue Victor Massé. Il était 1 heure du matin, et soudain rasséréné et comme dégrisé de l'alcool des maux, il pénétra dans une boîte de nuit où il s'était déjà rendu, quelques mois auparavant, au moment de son divorce. Il s'assit à une table, commanda un verre de Schweppes, puis dirigea son regard vers les couples qui dansaient. Voilà, pensa-t-il, quelque chose que personne n'apprendrait jamais sur lui. Ce plaisir presque morbide qu'il prenait à voir des corps s'agiter, se serrer, puis se séparer. Des centaines de fois, il était ainsi descendu dans les boîtes de nuit, toujours seul, refusant par principe que l'on vînt s'asseoir près de lui, restant là une ou deux heures dans l'admiration ridicule des corps. Admiration qui lui paraissait d'autant plus incompréhensible que le corps était pour lui la chose la plus banale, qu'il n'avait guère de secret pour lui, sinon le plus grand de tous, celui de la vie. Bayot ne dansait jamais. Il ne savait d'ailleurs pas danser, car, disait-il parfois lorsqu'on s'étonnait de son refus, il n'avait jamais eu le temps d'apprendre. En fait, Jean-Louis Bayot avait toujours eu honte de son corps. Tout le monde, dans le service, aurait sans doute été surpris d'apprendre que le professeur Bayot, dont les infirmières tombaient toutes amoureuses, n'acceptait pas sa réalité physique. Car on lui trouvait du charme et de l'élégance. Pourtant, depuis toujours, il s'était senti mal à l'aise dans son sac de peau. Il gardait un souvenir inquiet de ses visites médicales qu'il fallait subir à l'école, cherchant, quand il le pouvait, à prétexter une angine quand la date en avait été communiquée aux élèves. Et les douches en commun, au service militaire, l'avaient toujours quelque peu gêné. Il se trouvait trop fragile, trop maigre, et sa peau trop blanche lui rappelait qu'il lui faudrait mourir. L'origine en était sans doute, pensa-t-il, à l'éducation qu'il avait reçue, à la présence presque physique du péché tout au long de ses années d'enfance, à la crainte de la nudité, qui ne le gênait pas chez les autres, mais qui lui donnait l'impression de malaise quand il la regardait chez lui. Avec Corinne, pourtant, il n'y avait pas eu de problème de ce côté-là. Mais au fil des ans, le désir avait fui peu à peu, jusqu'au jour où Bayot s'était aperçu que plus rien ne les unissait, sinon quelques souvenirs et l'affection qu'ils portaient l'un et l'autre à leur fils. Une entraîneuse lui demanda la permission de s'asseoir près de lui. Pour la première fois depuis bien longtemps, il ne refusa pas et accepta de payer un verre de whisky à un prix qu'il ne put s'empêcher de trouver excessif. Il avait repoussé la proposition cajoleuse de prendre une bouteille de champagne, car il détestait cette boisson qui lui rappelait trop ses cocktails à la faculté de médecine où il se sentait si mal à l'aise, si étranger. « Tu danses, mon chéri ?» demanda la jeune femme que le médecin trouvait désirable. Mais il avait toujours trouvé la vulgarité désirable. C'était encore une de ces choses inexpliquées qu'il savait en lui. « Non, je ne danse pas. Je ne danse jamais. Tu es de passage à Paris ?»« C'est ça, je suis de passage, comme tout le monde. » Il se reprochait d'être aussi ridiculement agressif, alors qu'en réalité cette fille lui plaisait, qu'il la désirait, et que pour un peu il l'aurait prise par le bras pour l'emmener chez lui. Mais c'était une des choses que son orgueil lui interdisait. Payer pour quelques minutes de plaisir qu'il regretterait ensuite, non pour l'acte lui-même, mais parce qu'il aurait accepté de se rabaisser au niveau des faibles. « Tu as des ennuis ?» insista la fille. « Tu es malade ?»« Je ne me suis jamais aussi bien portée, ma petite. Et je suis bien payée, fort bien payée pour le savoir, car je suis médecin. » La confidence était venue sans qu'il y prît garde. Le visage de la jeune femme s'était soudain figé. « Oh, excusez-moi, dit-elle. Ah, vous avez de la chance, vous autres. Vous savez à quoi vous en tenir. J'ai ma petite Sylvie qui est malade. Elle a 5 ans, elle est à l'hôpital de Quimper depuis 15 jours. Les docteurs ne savent pas ce qu'elle a. » Bayot fut sur le point de s'enfuir, de laisser cette femme avec ses problèmes qui ne l'intéressaient pas. Que de fois n'avait-il pas été exaspéré par ces consultations qu'il fallait donner au pied levé dès qu'on apprenait sa profession. À la concierge, à la buraliste, à la femme d'un ami, à l'inconnu de passage. Comme si l'on pouvait d'un coup d'œil donner un diagnostic. Comme si l'on pouvait tout connaître. Le regard profondément douloureux de la femme qui était près de lui l'arrêta dans son mouvement. Il s'en voulut d'être lâche, de ne pas vouloir écouter, alors que, quelques heures auparavant, Yves de Lambert l'avait laissé sans dégoût vider son petit sac d'amertume. « Oui, poursuivit la jeune femme, qui déclara s'appeler Jeannine. Ma fille Sylvie est à l'hôpital de Quimper. Elle a été hospitalisée il y a 10 jours. Je téléphone tous les matins quand je rentre chez moi. Je n'ai pas le temps d'aller la voir. Évidemment, j'irai tout de suite si je savais que c'est grave. Mais ce n'est peut-être rien, n'est-ce pas ? Peut-être, murmura Bayot, dont l'intérêt professionnel renaissait soudain, et bien malgré lui. De quoi souffre-t-elle, votre petite?
Oh, je crois que c'est la croissance.
Elle a beaucoup de fièvre. Ça faisait quelque temps qu'on la trouvait palote. Elle vit chez ma mère. Ici, ça ne serait pas possible. Elle avait mal à la gorge et on pensait que c'était une angine. Et puis elle a de petites taches rouges sur la peau.
Bayot tendit l'oreille et sentit une froideur glaciale l'envahir, en même temps qu'une profonde tristesse. Quand donc la mort cesserait-elle de l'importuner? Où pouvait-il aller, puisque même dans cette boîte, il la sentait le cerner de toutes parts? Il posa quelques questions d'un ton rapide, obtint des réponses plus ou moins évasives. Tout lui apparaissait clairement. Les réticences des médecins, les nouvelles analyses qu'il faudrait faire. Évidemment, il ne pouvait se prononcer en l'absence de tout élément véritable. Mais il avait vu tant de cas au cours des 15 dernières années qu'il pouvait difficilement se tromper. Il devinait, derrière les mots presque incohérents de la femme, une de ses vieilles ennemies, contre laquelle toute lutte était presque par avance condamnée, la leucémie. Le sang de l'enfant, comme le sien, était envahi par des cellules empoisonnées. 2 mois sans doute, 4 tout au plus. Mais peut-être se trompait-il. Il l'espérait confusément. Même s'il s'agissait d'une leucémie, n'y avait-il pas des cas de rémission complète? Bayot en avait connu quelques-uns. Ses confrères disaient d'ailleurs qu'il en était un des principaux responsables. Mais le professeur restait sceptique. Ces cas de guérison, bien que favorisés par le traitement qu'il avait mis au point, n'était que le fruit du hasard. Demain, cependant, les cas exceptionnels de guérison se feraient de moins en moins rares, et la leucémie serait bientôt vaincue. Oui, pensa-t-il, dans le cas des maladies d'enfants, le combat contre la mort vaut peut-être la peine. Il ne savait plus. Il se rendait bien compte que ce qu'il pensait était en opposition avec ce qu'il avait dit précédemment à Yves de Lambert.
Vous croyez que c'est grave, docteur ?
Il haussa les épaules et mentit une fois de plus, comme il l'avait fait tant de fois.
« Comment savoir, madame? Il me faudrait les analyses. »«
Je ne suis pas un sorcier, pourtant. »«
Oui, docteur. »
L'angoisse se lisait sur les traits de la femme. « Laissez-moi le nom de votre enfant. Je prendrai des nouvelles. »« Je reviendrai demain soir, si vous voulez. » La femme eut un sourire désabusé. « Oh, vous ferez comme les autres. » Vous ne me direz rien. Je ne saurais même pas si c'est grave. Seuls les gens qui ne veulent pas savoir n'apprennent pas la vérité. Si vraiment vous le voulez, je vous promets de vous la dire.
Eh bien, oui, docteur, je veux savoir. Dites-moi si ma petite Sylvie va guérir.
Bayot se saisit de sa gabardine, monta lentement les marches qui menaient à la porte du bar et reprit le chemin de son domicile. L'histoire lui semblait maintenant ridicule, grotesque. Évidemment, ses confrères de Quimper ne lui cacheraient pas la vérité. Évidemment, si cela s'avérait possible, l'enfant pourrait être envoyé dans son service. Mais à quoi bon? Cela valait-il la peine de lutter contre l'inéluctable? Puis il se dit qu'il y a 15 ans, il aurait tenté l'impossible pour sauver son fils, alors qu'à cette époque, le traitement de cette terrible maladie n'en était qu'à ses balbutiements.
« Je ne sais plus, » murmura-t-il à demi-voix. « J'ai l'air d'un fou qui se contredit toutes les heures. J'en ai marre des vivants et de leurs petits problèmes. Pourtant, si sa propre vie devait se terminer par une dernière victoire, il aurait aimé que ce fût la guérison de cet enfant. Il se sentit très las quand il franchit le seuil de sa porte. La maison était vide et déserte comme son âme. Il regretta que Corinne ne fût plus là. Il eut envie de téléphoner chez elle, mais sans doute n'était-elle pas rentrée du Japon. Il regarda sa photographie, qu'il avait conservée sur son bureau, son sourire éclatant, son insolente santé. « C'est à la vie qu'elle souriait, » pensa-t-il. « Car m'a-t-elle jamais souri ? On ne sourit jamais à un vieux loup comme moi. »